Dans les épisodes précédents, des fêtes, Donald Trump, des célébrités qui meurent en pagaille, des huiles qui s'ouvrent, des jets partout, de justice nulle part, nous sommes le 11 janvier, la Terre tourne, et cette fois, c'est la bonne. Bonjour, bonjour à tous sur le premier numéro de Cette fois c'est la bonne, le podcast dédié aux révisions des concours de journalisme, financé en grande partie grâce à vous. Merci encore, je ne saurais jamais assez vous remercier, si ce n'est à travers le travail que je vais donc amorcer de maintenant à fin juin. Donc Cette fois c'est la bonne est un podcast dédié, comme je viens de le dire, aux concours de journalisme, ou tout simplement si vous voulez réviser l'actualité ou enrichir votre culture générale, parce que vous pouvez passer des concours qui ne sont pas liés au journalisme directement, ou tout simplement vous voulez écouter ma voix de velours, ou savoir ce qu'il s'est passé parce que vous habitez sur Mars. Donc je rappelle que Cette fois c'est la bonne a été financée via une campagne de crowdfunding, pas ce podcast en tant que tel, mais toute une galaxie, tout un ensemble de projets qui va se baser autour d'un site que je vais lancer sous imminence très très forte, qui va regrouper non seulement les numéros de ce podcast, qui sont aussi hébergés sur Radio Kawa, mais également des reportages, des infographies, des textes, un peu des blogs, une portée blogesque, qui sera donc financée avec du matériel, des tickets en train, grâce à vous, et certaines contreparties vont directement être affectées le déroulé de ce podcast. Donc, merci encore, et vous pourrez retrouver ce podcast, a priori, une fois toutes les 2 semaines. C'est sujet expérimentation selon ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive à pas faire. Le podcast traitera toujours la semaine d'avant, mais encore une fois, peut-être que s'il y a un laps de temps de 2 semaines, je me ferai les 2 semaines. Bref, on va voir ça au fur et à mesure selon mes disponibilités et ce que je peux faire en faisant tout a priori bien. Car l'objectif numéro 1 de ce podcast est d'aider les gens, de vous aider, vous qui peut-être êtes en train de commencer à réviser pour les concours de journalisme qui vont pas tarder à commencer. Bonne chance à vous, ce podcast est là pour vous. Mais encore une fois, je ne fais que vous ouvrir la porte en fait, grosso modo. Donc c'est à vous de faire l'autre moitié du taf. Vous avez évidemment toutes les de matière à rattraper, et donc on peut se donner rendez-vous sur cettefoisc'estlabonne.fr. Je donnerai le lien un peu partout, hein, il est sujet à changer, mais a priori c'est celui-là, pour tout le reste, la méthode, tout ça, pour ce grand marathon qui commence. Donc faites le taf en amont, de développer, faites vos propres fiches, et surtout révisez tout le reste. Mon micro s'en va, c'est une superbe occasion de rappeler que normalement j'ai un meilleur matériel, avec un son vraiment meilleur, celui de l'Old Japon, mon autre podcast, mais après une catastrophe de matériel généralisé, parce que c'est comme ça souvent que ça marche le podcast, je me suis retourné dans l'urgence vers mon micro un peu plus pourri, mais heureusement pour la prochaine fois je reçois un nouveau PC portable, ordinateur portable d'ailleurs, c'est un Mac, enfin bref, je le finance avec mes sous, évidemment pas avec les vôtres, pas avec ceux du crowdfunding, donc j'aurai une petite station mobile de podcast, ça devrait être beaucoup plus simple. Bon bref, on va commencer avec l'agenda, cette première rubrique qui est tout simplement, je crois que le nom est assez explicite, on va tout simplement dérouler les dates importantes dans le déroulé des concours, faire ça assez rapidement, avant de retrouver l'actualité dans son ensemble. Donc nous sommes en tout début d'année, c'est là que les choses sérieuses commencent, il faut surveiller les bouquins sur l'actualité 2005. Alors j'avais une référence coécrite par le directeur de l'école de Sciences Po qui visiblement ne fait pas pour la première fois depuis très longtemps une publication résumée de l'actualité. C'était une superbe édition, donc je sais pas quoi vous recommander par rapport à ça. Si vous allez sur Amazon ou dans votre librairie ou votre Fnac ou votre petit libraire indépendant préféré, vous trouverez forcément à commander ou dans les étagères des anthologies de l'actualité pour les concours avec des quiz, etc. Ça peut toujours servir. Consacrer une grosse soirée à l'année du zapping, qui est un rituel personnel et qui est disponible sur T411. Évidemment, il n'y a pas aucun moyen légal de se la procurer pour plein de raisons. Probablement une raison par image, d'ailleurs ce qui fait à peu près 4 heures de raison. Donc n'hésitez pas à vous mater ça au coin du feu avec des amis, c'est toujours sympa. Le 5 janvier, le CFJ a ouvert ses inscriptions. Le 6 janvier, c'était la date limite de validation du dossier Sciences Po, donc j'espère pour vous que c'est pas une surprise quand vous l'entendez, sinon vous êtes mal, genre très très mal, genre c'est fini pour cette année. C'est pas si grave, c'est l'un des concours les plus difficiles, sincèrement, avec une seule épreuve, et normalement vous êtes informé, hein, puisque le dossier dossier est très 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 long à monter, il y a énormément de pièces. Le 12 janvier, c'est le début d'inscription de l'ESJ, le 15 celui du QEJ, et le 16 celui du CELSA. Donc n'hésitez pas à faire tout ça le plus vite possible. D'une part, vous êtes un peu débarrassé, excusez-moi, et d'autre part, ça vous permet de passer à autre chose, tout simplement, de réviser. Donc ces deux points sont un peu les mêmes. Après, si vous avez une expérience professionnelle et que vous voulez enrichir un peu votre CV, sachez que peu de concours se basent directement sur ça, même si, comme on le reverra, des écoles, notamment pas l'IPJ, l'IFP, voilà, impliquent que vous ayez déjà une expérience en journalisme. Donc si vous faites un stage cet hiver ou à partir d'avril, ça sera important pour la suite. Donc on va commencer à bosser tout ça. Tout de suite, l'international. Alors pour ce premier numéro, tout de suite, on va couvrir la semaine qui vient de se dérouler du 4 au 11 et retenir les points essentiels de l'actualité. Encore une fois, je ne vais pas tout dire, je ne vais pas être exhaustif, je vais juste vous, vous ramener aux points centraux, vraiment nodaux de cette semaine. Je le répéterai pas chaque semaine, mais bah, évidemment, c'est à vous de faire la deuxième moitié du taf, mais je vais vous montrer la voie, entre guillemets, vous dire un peu ce que j'ai noté, ce qui a frappé mon œil et quels sont les sujets dignes d'intérêt, on va dire, au niveau immédiat et pas forcément qui seront skippés, zappés par définition par les auteurs des concours. Donc tout de suite, on va aller aux États-Unis où le président Obama a annoncé de nouvelles mesures anti-armes à feu. Alors évidemment, réflexe numéro 1, ça a fait grimper les ventes. Il a annoncé, je cite, « Les décrets présidentiels annoncés mardi visent à éteindre aux vendeurs occasionnels, notamment sur Internet ou dans les salons consacrés aux armes à feu, l'obligation de procéder à des contrôles d'antécédents judiciaires et psychologiques des acheteurs. » Ça, c'était pas une citation, c'était les modalités de ces annonces, tout simplement fouiller un petit peu les dossiers de ceux qui vont se procurer tout ça. Évidemment, ces mesures prévoient également d'augmenter les moyens des agences fédérales responsables de ces contrôles et de la lutte contre les ventes clandestines, un projet qui est évidemment en réaction aux multiples fusillades. Il a lui-même annoncé qu'il prenait ça pour une routine avant de s'effondrer sous les caméras, mais évidemment, le Congrès est républicain et il n'est pas super relax par rapport à ça. En Arabie Saoudite, s'est passée l'exécution du chef religieux Nim Bagher al-Nimer, N-I-M-R, condamné à mort en 2014 pour terrorisme. Cette exécution a créé une série de tensions, enfin créé, disons qu'elle a réamorcé une série de tensions diplomatiques au long cours pour pas mal de temps et au moins toute cette semaine avec l'Iran. Grande figure des anti-sunnites au pouvoir et de facto défenseur de la minorité chiite saoudienne. Bref, c'est fini, ils ne se parlent plus, ils n'iront plus en vacances ensemble. Surtout après une attaque de partisans radicaux du régime après l'ambassade à Téhéran. Ça fait un peu pression aux pays sunnites qui s'exécutent, qui font la même chose. Le Bahreïn et le Soudan ont également coupé les ponts avec l'Iran et même les Émirats y ont retiré leur ambassadeur. Le 7 janvier, on est passé à deux doigts d'une cata majeure. Une roquette tirée par un avion de la coalition arabe dans le territoire arménien yéménite s'est retrouvée à 100 mètres d'une ambassade de la République islamique à Sanaa. Sans doute une erreur, je ne sais pas, je n'y étais pas, bref, mais Téhéran accuse d'avoir blessé un garde et d'avoir délibérément visé le lieu, ce qui a remis le feu aux poudres. Diplomatiquement, le Yémen est un petit peu pris en sandwich entre les deux. On reviendra plus tard sur les différences notables entre sunnites et chiites. En Libye, l'État islamique Daesh s'étend dans l'ouest et à l'ouest du pays. Un gouvernement d'union nationale s'est formé au Maroc en décembre entre les deux camps du pays, à Tobrouk et à Tripoli. Les extrêmes des deux camps ne sont pas contents. Ils s'estiment imposés par des puissances étrangères. Du rififi en Catalogne, la CUP, le parti séparatiste, ne soutient pas le président sortant Artur Mas, lui aussi indépendantiste. Pour rappel, ils ont jusqu'au 9 pour désigner un candidat qui fera consensus. Donc on va faire un petit flash forward jusqu'à samedi. Le parti Junspelsi, ensemble pour le oui, en français dans le texte s'il vous plaît, et le CUP se sont donc mis d'accord pour former un gouvernement régional, et Artur Mas d'annoncer qu'il abandonnait un deuxième mandat éventuel. Il a aussi annoncé que le nouveau candidat à la présidence de la région était un membre de son parti, Karl Puigdemont, P-U-I-G-D-E-M-O-N-T, 53 ans, qui préside l'association des municipalités, décidément pour l'indépendance. On va tout de suite au Venezuela où il y a une cohabitation tendue. L'opposition à la majorité, c'est la table de l'unité démocratique, MUD, qui peut donc légalement écourter le mandat du président Nicolas Maduro par référendum. Ce dernier défend fort l'héritage d'Hugo Chavez et la révolution bolivarienne. C'est pas le cas du nouveau président de l'Assemblée nationale, Henri Ramos, social-démocrate. En Allemagne, la nuit du réveillon sentait vraiment mauvais à Cologne, où une centaine de femmes ont subi des violences et agressions sexuelles par une trentaine d'hommes. Le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, a dénoncé l'inaction de la police, risque d'amalgame avec les réfugiés, puisque les agresseurs étaient pour la plupart nord-africains. Donc en plus de l'horreur du truc, l'embarras est total. À ce stade, on est à plus de 300 plaintes, ça n'en finit pas de monter, et Angela Merkel a passé la semaine à durcir le ton sur les immigrés et la politique des immigrés. Ce qui me fait une excellente transition pour parler de la Suède, qui a fermé ses frontières au Danemark, qui elle-même renforce ses frontières avec l'Allemagne. Ça mériterait une petite carte sur les frontières en Europe, mais pas de bol, cette fois c'est la bonne, est un podcast. D'ailleurs, la Belgique et les Pays-Bas ont fait un petit échange de territoire de quelques hectares, la faute au mouvement de la Meuse, retenez donc ça, on ne sait jamais. Au Mexique, je suis super déçu, c'est un peu le genre de storyline que j'adore suivre, avec notamment Dupont de Ligonnès ou le fabuleux John McAfee, le cow-boy de l'extrême des ans 2010. Mais Joaquin Guzman s'est refait rattraper. Le super narcotrafiquant wanted numéro 1 mort ou vif qu'on surnomme El Chapo, le chapeau pour le trapu, s'était évadé de prison en juillet et il va y retourner prestement. Et ce dimanche, on a appris un plot twist rigolo. Il se trouve que Sean Penn avait mené une interview avec l'intéressé. Il a donc concrètement fait un meilleur taf que les autorités mexicaines. En Centrafrique, la présidence, à la suite de la place provisoire de Catherine Samba-Panza, un second tour devra départager Anicet Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, affaire à suivre. Et tout de suite, mon préféré, la Corée du Nord. Là, je vais essayer d'adopter le ton militaire bullshit d'une présentatrice locale. Le pays prétend avoir fait exploser une bombache. Évidemment, c'est la Corée du Nord, donc bullshit probable, les séismes ressentis trop faibles. Ça n'empêche pas qu'ils aient sûrement fait péter un truc genre bombard. Alors, si vous demandez quelle est la différence entre une bombe H et une bombe A, tout simplement, l'un est le déclencheur de l'autre, pour simplifier énormément les choses. Mais il est presque avéré qu'ils aient réussi à faire péter une bombe A, ce qui n'en finit pas, évidemment, d'embarrasser la Chine et le reste du monde. D'ailleurs, puisque je parle de Chine, un petit oiseuf, ou un Mao Zedong de 37 mètres, a été érigé dans le centre de la Chine à 426 000 euros. Voilà, c'était une superbe transition pour ce coin-là. En Algérie, un projet de révision de la constitution algérienne qui prévoit de limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels et élève la langue berbère au rang de langue officielle, au même titre que l'arabe, c'est le tamazight. Tamazight. Voilà pour l'international, tout de suite la France. Oui, c'était court, mais ce sera sûrement un peu plus fat les prochaines fois, tout simplement parce que ça courira plus de temps et j'ai zappé pas mal d'actualités qui auront des développements importants pour les prochaines semaines, donc c'est un petit préambule à l'esprit du podcast. Donc en France, évidemment, on a fêté, entre guillemets, le 7, la première année, l'an 1 après Charlie Hebdo. Le premier truc que j'ai envie de vous dire, même si c'est évidemment pas important face à l'actualité, mais ça peut l'être face au concours, c'est le léger souci de plaque commémorative qui orthographie mal Volinsky, qui a inversé I et Y. Évidemment, ça ne fait pas de l'ombre au drame derrière, mais c'est le genre de petit détail qu'il faut retenir et qui peut tomber, on ne sait jamais. En parallèle des commémorations, il y a eu un peu de verbatim légal, notamment Manuel Valls, qui a commencé à vouloir imposer des mesures d'exception dans le code pénal. Ces mesures impliquent du pouvoir supplémentaire au procureur de police, des perquisitions de nuit, poser des micros, plus de pouvoir au préfet, les fouilles de véhicules, donc concrètement, ça prépare le terrain pour la sortie d'état d'urgence, et moins de pouvoir, littéralement, à la justice. Donc voilà, j'espère que vous avez confiance en la justice de votre pays. Le fil rouge de cette semaine en politique, c'était les soucis OPS autour de la déchéance de nationalité. Il est très contesté en interne, ce petit dossier. Cambadélis qualifie la mesure de discutable, dans le sens où il veut l'ouvrir aux binationaux et aux autres. Donc ça pose une question, est-ce qu'on peut se faire retirer sa seule nationalité? Eh ben écoutez, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça y est, mais c'est pas un texte de loi. Donc le Code civil empêche ce cas de figure pour le moment aussi. Jusque-là, c'est pas possible si on a qu'une seule nationalité. Après, Christiane Taubira, la ministre de la Justice, a répété publiquement que son opposition à la déchéance de nationalité des binationaux, qu'elle devra pourtant défendre devant le Parlement, Donc, elle assume un peu cette ambiguïté. Tout le monde demande sa démission parce que demander la démission de Christiane Taubira, c'est quelque chose de hype, quelque chose de hip. Et ce duel à distance entre d'une part la garde des Sceaux, d'autre part le président et le premier ministre, c'est un espèce de truelle en fait en interne, crée une situation vraiment un peu improbable au sein de l'exécutif que l'opposition ne manque pas de souligner. François Hollande a exclu l'ancienne PDG de l'INA Agnès Salle de la fonction publique pour 2 ans, 6 mois ferme. Rappelez-vous, elle avait un tout petit peu abusé des notes de frais pour presque un demi-million de taxis. Le successeur de Jean-Louis Debré, donc le président du Conseil constitutionnel, sera nommé par Hollande en février. Nicolas Hulot a mis fin après 3 ans à sa mission d'envoyé spécial du président pour la protection de la planète. Il se justifiait en disant qu'il serait plus difficile d'exercer cette mission en pleine campagne. Il disait que cette mission serait vue de manière plus ambiguë, qu'elle serait plus ouverte à des interprétations. Un gros carnet noir pour cette semaine, il y a eu la mort de Michel Galabru, acteur, Michel Delpech, chanteur français, tous les deux sont quand même très connus, quasiment coup sur coup, Michel Sardou va bien, chef d'orchestre et compositeur, c'est Pierre Boulez, mort lui aussi, André Courrèges, à 92 ans, un grand homme du monde de la mode et du vêtement féminin, en tout cas c'est ce que disent les médias, je n'y connais pas grand-chose. Il faut que vous reteniez ces visages, c'est évidemment important pour la suite. Ce week-end, opération guillemets porte ouverte, fermez les guillemets suite à l'initiative du Conseil français du culte musulman et amorcée par son président Anouar Bibesh. N'hésitez pas à retenir ce nom-là également. Tout de suite le reste. Ça va vite, ça va vite. Dans un premier temps, un petit volet écotech. Ce qu'il faut retenir en premier, c'est qu'Orange est en négoce pour acheter Bouygues. Orange a annoncé son intention de racheter 65% de Groupama Bank afin de lancer sa propre banque sur mobile en 2017. Alors là, Twitter a explosé puisque Jack Dorsey, son cofondateur, a annoncé la possibilité hypothétique de pouvoir dépasser les 100 caractères. Et le site Recode, spécialisé Recode, annonce lui 10 000 caractères après avoir ouvert cette limite des 140 en message privé. Donc on pourra tous étaler nos tweets sur plusieurs pages, hein, évidemment dans un module qui ressemble à celui de TweetLonger, a priori. Tout de suite à Las Vegas, le Consumer Electronic Show, le CES, on a vite fait de confondre les conventions et rencontres tech américaines. Pas confondre celle avec Austin par exemple, je vais pas citer son nom pour pas créer de confusion tout de suite. Donc on parle bien du CES à Las Vegas. On y recroisait pas mal de boîtes américaines, beaucoup beaucoup plus de françaises que l'année dernière, et on y parlait pas mal de bagnoles. Ce qui est normal puisque 2015 a été une année record de vente aux États-Unis et souvent de gros cylindrés, 17,5 millions d'unités en 2015. La zone Europe a vu une baisse de chômage record depuis octobre 2011, on est à 10,5%, c'est donc le plus bas taux record depuis octobre 2011. Entreprise toujours, Marks & Spencer va changer de tête, Steve Rowe va remplacer Mark Boland. En culture, George R.R. Martin oblige ses fans à se faire dessus en annonçant le retard de The Winds of Winter, en tout cas pas avant la diffusion de la saison 6 sur HBO en avril, qui du coup sera 100% inédite par rapport au canon original. Gros malaise autour du festival d'Angoulême, qui a annoncé une sélection officielle Femme Proof. Riyad Satouf s'est retiré du truc comme un prince, le hashtag WomenDoBD a été une grande tendance Twitter ce dernier mardi, et le Festoche a donc annoncé un peu en paniquant l'incrémentation plus tard de concurrentes dans la sélection. Franck Bondou, délégué général du Festival International de Bande Dessinée, reconnaît une erreur symbolique. Je ne m'étends pas sur les différents modes de scrutin évoqués toute la semaine, c'est encore un petit peu le bazar, mais voilà, l'embarras a été total. J'espère que vous avez noté le nom du nouvel album de David Bowie, qui ne sort pas une galette tous les 6 mois. Il s'appelle Black Star. Il est très jazzy, un peu spécial. C'est pas mal à écouter en faisant du sport. Et enfin, le film Star Wars, que vous avez probablement vu, que je m'amuserai pas à spoiler, a pour l'instant généré 1,73 milliard de dollars jusqu'à présent. Il devient le troisième film le plus rentable de l'histoire. En sport, c'est très difficile de passer à côté. Zidane a été nommé entraîneur du Real Madrid par le président du club, Florentino Pérez. Moi, ce que je vous propose, c'est de retenir quand même le score de son premier match, qu'il a très bien mené, puisque les Madrilènes ont écrasé la Corogne 5-0. Et enfin, Michel Platini s'est retiré de la course à la présidence de la FIFA. Pas une surprise. D'ailleurs, selon Metacritic, le pire film de l'année était cette espèce de machin géographique sur l'histoire de la FIFA qui n'est sorti qu'en direct ou DVD chez nous. Il a eu un Metacritic de 1. C'est fantastique. One, two, three, four. Enfin, la question bonus, c'est une rubrique où on retient les petits trucs qui sont susceptibles de tomber là, 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 un petit peu partout, les petits machins qu'il faudrait vraiment noter quelque part, sans indépendamment de ces dossiers. Donc, à partir du prochain numéro, je rappelle que je ferai une dédicace à chaque numéro pour tous ceux qui ont réclamé le palier adéquat. Ils sont 4, je crois, de mémoire, donc je sais pas, je ferai leur météo, je ferai des haïkus, en tout cas, le temps de vérifier leur identité et de les contacter, je leur ferai une petite dédicace à ce point du podcast à chaque fois. Donc, mon conseil pour la question bonus, c'est d'acheter les numéros bilan tant qu'ils sont encore chez vos kiosquiers relais préférés, tant qu'ils les ont encore sous le coude, tant qu'il est encore temps, puisque les suivants sont déjà sortis ou vont sortir dans pas longtemps. Ils sont chouettes à garder, ils sont pas exempts de trucs utiles, bien au contraire, ils vont contextualiser toute l'année à suivre. Alors, les trucs à retenir, notamment éplucher tout le site de l'INSEE pour tout ce qui est chiffres mondiaux, internationaux, petits trucs qui sont nécessaires et qui tomberont dans les fiches de révision dans les semaines à suivre. Ce que je vous recommande de noter tout de suite, c'est la présidence tournante de l'Union européenne, qui change tous les 6 mois. En janvier, c'est donc les Pays-Bas, et en juin, ce sera la Slovaquie. En février, aura lieu la 50e édition du Super Bowl. Le premier tweet aura 10 ans, on fêtera l'année du singe. En 2016, il y aura aussi les Jeux Olympiques à Rio. C'est intéressant de noter que pendant la présidentielle américaine, personne n'en parlera, mais il y aura aussi celle du Congo, mais oui, c'est clair. Météo France a dit que 2015 était la troisième année la plus chaude depuis l'existence des relevés en 1900. Et maintenant, l'indispensable point de timbre, la facturation, la tarification change un tout petit peu, on passe à des tranches de poids pour l'affranchissement. Le vert passe de 68 à 70 centimes, le prioritaire de 76 à 80, on sait jamais, ça peut servir. Le journal officiel n'est plus consultable qu'en ligne. J'en ai pas parlé dans la section culture parce que, voilà, Mein Kampf est rentré dans le domaine public. Il va être réédité tout d'abord en allemand dans une méga édition critique assez massive. Vous aurez remarqué que le présentateur de Questions pour un champion, Julien Lepers, a pris son édition du jeu télévisé qu'il animait depuis 1988, c'est dommage. Allez voir qui est son successeur pressenti, c'est un peu improbable. Et maintenant, je vais vous poser quelques questions. El Chapeau, ça veut dire quoi? Parce que, tout de même, ça peut tomber. Ça veut dire le trapu, et c'est Joachim Guzman. Il pourrait se réévader dans l'année, on sait jamais, il faut le surveiller ça. Et c'est quoi la deuxième langue officielle en Algérie? Parce que j'en ai parlé il y a 10 minutes, hein. Je dis ça, je dis rien. Combien est-ce qu'il y a de communes en France? Certaines ont fusionné, une petite centaine, on se retrouve avec 35 970 communes en France. Et pas mal de médias l'ont fait, mais on va faire le point différence entre sunnites et chiites. Donc on va s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, hein, dans les fondamentaux. Donc revenons à Médine, en 632, où le prophète Mahomet meurt dans ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite. L'opposition majeure entre sunnites et chiites réside dans le choix du successeur le plus légitime du prophète pour la communauté. Pour les suites, c'est Abu Bakr, Abu B-A-K-R, compagnon de Mahomet, son BFF, hein, qui la ligne édito de ce monsieur, c'est le retour aux grandes traditions. Et pour les chiites, c'est Ali, le gendre de Mahomet, parce que lien du sang. Le chiisme a passé une grande partie de l'histoire écartée jusqu'en 1502, où elle est faite religion d'état de l'Empire Perse, d'ailleurs. La Perse, c'est l'Iran. Le prince de Perse, c'est le prince d'Iran. Je cite un très bon article du Monde qui fournit à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet, qui vous fait de superbes infographies sur les pays majoritaires entre les deux. Donc, il fournit tout ce qu'il y a à peu près à savoir, et il dit « Les chiites révèrent Ali, ses descendants et successeurs comme les 12 imams, persécutés, qui servent d'intermédiaire entre les croyants et Dieu. L'imam sunnite, lui, se voit comme la continuité des premiers califes de l'islam, qui ont conservé intact et fait observer les commandements de Mahomet. Vous pourrez en savoir plus sur le site du Monde, ce qui oppose les sunnites et les chiites, qui développent tout ça de manière ultra exhaustive. » Voilà, c'est déjà fini pour ce premier numéro, c'est passé très vite. Les prochains seront un peu plus fat ou ne seront pas, ou seront plus réguliers, tout ça est en rodage. N'hésitez pas à suivre @c'est la bonne pour des informations sur Twitter, c'est le compte du projet. Vous pouvez aller sur cettefoisc'estlabonne.fr, vous pouvez me suivre sur @la débauche, et vous pouvez mettre 5 étoiles sur le podcast sur iTunes, ou écouter LOL Japon, ou me suivre par exemple sur lemonde.fr, où j'écris un article de temps en temps quand les planètes s'alignent. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de bon courage, de bonne chance, un bon courage dans vos révisions. C'est parti, c'est là que ça commence, c'est une vraie course de fond qui va être pesante, mais encore une fois, surtout par écrit, un peu par vidéo, un peu par audio, je vais faire le mieux pour vous partager ce que j'ai vécu, comment je peux vous aider, mais encore une fois, c'est à vous de faire la plupart du taf. Allez, à plus, ciao.
Fuck. Flash Info, la France a peur. Coups, meurtres, têtes arrachées, corps électrocutés, masques répugnants, bêtes horribles, démons rugissants. Nous venons d'apprendre le lancement d'un podcast sur le Japon. En direct, la réaction de Ségolène Royal.
Ah, cachez vos enfants, ils arrivent.
Radio Kawa présente LOL Japon.
Animé, manga, jeux vidéo, visual novel, le pire et le meilleur du Japon.
Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter.
Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles.
Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.